Bonsoir, difficile d'échapper au sujet du remaniement, ce remaniement qui tarde, perçu comme quelque chose de grave, mais oui, par une majorité de Français. Principal enseignement de notre enquête hebdomadaire Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Elle donne l'avantage à Édouard Philippe qui inspire nettement plus confiance qu'Emmanuel Macron. Nous détaillerons notre sondage à la une des informés. Nous évoquerons également cette fin de non-recevoir de Laurent Wauquiez à destination de Nicolas Dupont-Aignan. Les droites ne se marieront pas en vue des européennes. Le chef de l'État, lui, a pris le large à Erevan, en Arménie, au sommet de la francophonie. Pas de chance, l'élection de la future présidente de l'organisation, Louise Mushikiwabo, fait polémique. Elle est la candidate d'un Rwanda controversé. On en parle avec nos invités. Bonsoir Jeannick Halimi.
Bonsoir Jean-François.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, aujourd'hui en France. Avec nous également, bonsoir et bienvenue Sylvie Brunel.
Bonsoir,
vous êtes, merci de me dire bonsoir. Vous êtes géographe et écrivain et vous êtes professeur à la Sorbonne. Avec nous Sylvain Courage. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue Sylvain, rédacteur en chef à l'Obs. Et également ce soir sur ce plateau, bonsoir Thomas Clay.
Bonsoir.
Professeur de droit à la Sorbonne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Voici tout d'abord les limites du « et en même temps ». Le Premier ministre de l'Intérieur, on va l'appeler comme ça, s'est exprimé au 130e Congrès national des greffiers des tribunaux de commerce et a commencé par s'en mêler les pinceaux, Édouard Philippe, entre agacement et humour, il faut le dire.
Alors, vous l'avez dit, il paraît que c'est la première fois qu'un Premier ministre et peut-être aussi un ministre de l'Intérieur intervient, parce que c'est le même, à un congrès annuel des greffiers des tribunaux de commerce. Je commence par préciser que je n'ai pas vocation à aller au-delà de ces deux postes. Ça n'est pas quelqu'un qui ferait l'intérim du ministre du garde des Sceaux qui est présent. J'en ai assez à faire, je veux dire.
Jeannick Halimi, il doit trouver un petit peu le temps long. Comment est-ce que vous le trouvez, le Premier ministre, là?
Là, dans la séquence, moi, je le trouve très plutôt sympathique, avec la distance qu'il faut, l'humour, l'auto-dérision. Donc, il est égal à lui-même, hein. Édouard Philippe, on sait qui c'est. Maintenant, on finit par savoir qui c'est. Il est l'auteur de romans policiers, il est plein d'humour. Et il est à la hauteur de sa dimension, j'allais dire, de sa taille, parce que on va peut-être certainement en parler. Il assure quand même, le monsieur, il assure. Il a deux fonctions. Il traverse crise sur crise et il est là. Et il ne faut pas s'étonner du sondage dont on va parler.
CDD,
il est là et bien là, je veux dire.
S'il encourage le CDD à Beauvau, c'est quand même mission impossible, mais la boutique, elle tourne toute seule. C'est pas vraiment un sujet.
Non, c'est une administration quand même qui est très... Il y a des rouages bien huilé, mais le cas d'Edouard Philippe est intéressant parce que son flegme convient bien à des temps agités. Il se révèle dans la tempête, un peu dans les difficultés, parce qu'il met les choses à distance, et il a de l'humour, et du coup, il empile les choses sur ses épaules, et finalement, cet intérim aussi renforce sa stature. Il est Premier ministre, et il a insisté là-dessus, en fait, il en a joué. Il est Premier ministre et ministre de l'Intérieur, donc c'est quelqu'un qui prend toujours plus de responsabilités, toujours plus de poids, et il dit « j'ai pas vocation à aller plus loin », mais enfin, on peut se demander quand on l'entend.
Alors, plus haut, peut-être.
Jeannick Halimi. Oui, alors, c'est le premier élément du sondage, donc, Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, je précise, réalisé hier et aujourd'hui auprès d'un millier de personnes par Internet. Édouard Philippe inspire nettement plus confiance, 55% contre 29% aux Français qu'Emmanuel Macron. Thomas Clay, est-ce que nous assistons à une sorte de changement au sommet du pouvoir, au sein de l'exécutif, aux yeux de l'opinion?
Bon, d'abord, le fait que Édouard Philippe occupe les fonctions de ministre de l'Intérieur et que ça tourne très bien, finalement, sans réel ministre de l'Intérieur, c'est vraiment à se demander à quoi servent les ministres. L'administration de Beauvau fonctionne et tout est en place. Quant au sondage...
Vous pensez que c'est à méditer, ça? Ou c'est de l'humour?
C'est à la fois de l'humour et en même temps une véritable question. À quoi servent les ministres? Voilà. Puisque le Premier ministre peut occuper plusieurs fonctions ministérielles. Et en cette période de remaniement où on cherche des ministres, ben finalement le fait qu'un certain nombre de candidats ne veulent pas finalement jouer les utilités, c'est peut-être aussi ça l'explication.
Ouais, c'est juste
sur la popularité asymétrique. Je crois que ça fait déjà un certain temps depuis je crois le quinquennat Sarkozy que le Premier ministre est plus populaire que le chef de l'État. Le chef de l'État en prend souvent ombrage. C'est dommage que c'est lui qui nomme le Premier ministre. Et puis tant mieux si le Premier ministre est plus populaire que le chef de l'État. Tout ça me semble un peu vain en réalité. Je ne sais pas si ce type de sondage, je suis désolé, c'est le vôtre, est vraiment intéressant. Ouais. Je sais qu'on va y revenir, donc je vais dire ce que j'ai à dire.
Merci de flinguer le sondage dès le début de l'émission. Sylvie Brunel, cette séquence, elle dure trop à vos yeux ou ça n'a pas beaucoup d'importance? Parce que certains le disent, ce n'est pas grave.
Non, dans votre sondage très important, on voit que les Français trouvent grave, justement.
On va y venir, oui.
Bon, alors, ce qui me paraît, alors je me fonde sur notamment sur le Libé des historiens d'aujourd'hui, avec un article très intéressant de Guillaume Lachenal, qui dit, mais finalement, faire durer la prise de choix, c'est aussi une façon pour le président de revenir à son rôle jupitérien, de montrer que c'est lui qui décide, et de renvoyer le gouvernement, et notamment le Premier ministre, on se souvient de ce que Nicolas Sarkozy avait dit de François Fillon, au rôle de collaborateur, c'est-à-dire que le président décide son calendrier, c'est un calendrier où il va se donner toute la mesure nécessaire pour choisir, en faisant les arbitrages, etc. Et pendant ce temps, eh bien, la France est gérée, mais le président montre qu'il est au-dessus de cela.
Jeannick Halimi, vous validez ce regard? Prend du plaisir, Emmanuel Macron, au passage.
Écoutez, je ne crois pas, je suis pas dans sa peau, ni dans rien d'autre, d'ailleurs, donc je ne sais pas s'il prend du plaisir ou pas. Non, ce qui est gênant, tout de même, au-delà de la durée que prend ce remaniement, c'est que le gouvernement l'avait annoncé lui-même, que ce remaniement devait avoir lieu mardi. C'est surtout ça qui est gênant. Donc ça prouve que même s'il est jupitérien, le maître des horloges a perdu le sens des aiguilles. Donc c'est ça qui est gênant. S'il nous avait dit, écoutez, on va prendre notre temps, on va, tant qu'Emmanuel Macron qu'Édouard Philippe, on va prendre notre temps et on va faire un vrai remaniement digne de ce nom, il n'y aurait pas eu cet aspect crise et perte de maîtrise du temps, justement. Ça qui importe, je pense.
Nous aussi, nous prenons notre temps. Nous allons poursuivre sur ce sondage, n'en déplaise à Thomas Clé. 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Romain Desec.
Édouard Philippe fait part de sa vive émotion après la mort de deux personnes dans le Var, leur véhicule emporté en mer par une crue à Sainte-Maxime. L'alerte orange aux pluies inondations a été levée cet après-midi. En Espagne, le bilan des inondations qui ont touché les Baléares mardi s'alourdit, 12 morts, un enfant est toujours porté disparu. Les autorités n'excluent pas la découverte de nouvelles victimes. Les syndicats cheminots dénoncent leurs conditions de travail suite à la mort d'un salarié hier soir près de la gare Saint-Lazare à Paris. Le cheminot de 55 ans a été heurté par un Transilien. Il supervisait la sécurité des travaux, mais il était tout seul, selon Sudrail. Une enquête interne est ouverte par la SNCF. La Russie ouvre une enquête pénale suite à l'incident de la fusée Soyouz. Les deux cosmonautes en partance pour la Station Spatiale Internationale ont dû faire demi-tour, 3 minutes après le décollage. Un demi-tour alors qu'ils volaient à 7 500 km/h. La faute à un moteur qui n'a pas fonctionné. Ils sont sains et saufs, malgré les 6G subis lors de la descente. C'est officiel, Leonardo Jardim n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Son palmarès, un titre de champion de France, une demi-finale de Ligue des Champions et la découverte de grands talents. Il paye l'entame de saison complètement ratée des Monégasques. Tous les regards se portent désormais sur Thierry Henry.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Sylvie Brunel l'évoquait à l'instant, la perception de l'opinion de ce remaniement qui tarde et qui est perçu avec une certaine gravité. On écoute tout de suite Gaël Sliman, le cofondateur et le président de Doxa.
Les Français sont une majorité à estimer que ce qui se passe, ce remaniement qui tarde, c'est grave, parce que c'est le signe que l'exécutif n'est pas ou plus capable d'attirer les talents, et le signe qu'il existe probablement des désaccords entre le président et le Premier ministre. Ceux qui pensent à l'inverse que, comme dirait Emmanuel Macron, ce n'est qu'une péripétie et qu'il faut finalement du temps pour choisir de bons ministres et vérifier qu'il n'y aura pas quoi que ce soit à leur reprocher une fois en poste, ne sont qu'une minorité de 45% et ils se comptent essentiellement ceux qui pensent cela chez les sympathisants d'En Marche.
Thomas Clay, il y a vraiment un désaccord au sommet du pouvoir?
C'est en tout cas ce qu'on en raconte, mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement, là, ou en tout cas le président de la République, ne maîtrise pas du tout le timing. Je suis pas d'accord avec ce qui a été dit. J'ai l'impression qu'ils subissent complètement les événements depuis maintenant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Et puis alors, ce remaniement qui tarde, évidemment, ça suscite un désir, une attention particulière. On attend maintenant, plus ça tarde, plus on attend un gros coup. Donc là, il faudrait vraiment qu'ils nous sortent Zidane, Obama, qu'ils sortent Lula de sa prison pour avoir quelque chose qui corresponde à la temps de susciter. J'ai peur que ça déçoive. Évidemment, si c'est François Molins, ça sera très bien aussi à l'intérieur, mais c'est vrai qu'il y a, ça montre quand même quelque chose de relativement important, c'est que, comme on dirait en sport, puisqu'on vient de parler de sport, il y a pas de profondeur de banc dans cette équipe présidentielle. Il y a pas de remplaçants. Les gens qu'on est susceptible d'aller chercher, c'est de la deuxième division, c'est pas au niveau de ceux du premier casting.
Vous êtes sévère. Oui.
En tout cas, c'est ce qu'on lit là. Donc voilà, il y avait un papier de Laurent Geoffrin il y a deux jours qui disait il nous faut un Blanquer de l'intérieur, un Blanquer de l'agriculture. Et d'ailleurs, il terminait en disant il nous faut aussi un Blanquer de l'Élysée. C'est vrai, il n'y a pas de, les remplaçants sont pas là, et c'est aussi la faiblesse du dispositif politique qui était illustrée à travers la durée de ce remaniement qui n'en finit pas de ne pas arriver.
Sylvain Courage, il y a un problème de ressources humaines selon vous?
Bah oui, il y avait un petit moment magique quand il s'est installé parce qu'il pouvait puiser à gauche et à droite. Donc, dans la constitution de l'équipe gouvernementale, il y avait quand même pas mal de surprises. Et puis, il y avait Nicolas Hulot, il y avait des poids lourds de la Hollandie, il y avait des gens qui venaient de la droite et tout ça formait une équipe nouvelle. Et là, aujourd'hui, il est privé de ressources parce que il a essayé d'aller pêcher dans les eaux de la gauche, mais plus personne ne veut venir. Et puis à droite aussi, ça se referme. Donc c'est un peu son isolement politique qui est illustré par la difficulté de former ou de réformer l'équipe gouvernementale. Et je pense que le sondage s'explique aussi parce que les Français ne se passionnent pas pour les remaniements en général. Et que donc ils trouvent que là, vraiment, ça dure trop longtemps et que ça cache quelque chose, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ça les agace, à mon avis.
Mais c'est plutôt le fait que ça dure qui intrigue, plutôt que la nature même du remaniement. Mesdames, je vais vous faire réagir à ce que dit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui était ce matin l'invité de France Info, qui estime que, effectivement, certains débauchages n'ont pas eu lieu. On écoute Olivier Faure.
Nombreux ont été, paraît-il, sollicités, et aucun n'a accepté. Je pense qu'il y a une volonté du chef de l'État d'afficher des prises de guerre, une volonté d'équilibrer en communication, une politique qui, elle, est à droite par des hommes ou des femmes qui sont identifiés à la gauche. Mais la vérité, c'est qu'il n'y parvient pas et que je crois qu'aujourd'hui, celles et ceux qui ont vraiment fait le choix de rester à gauche ne peuvent pas s'engager dans un gouvernement qui, en réalité, est à l'inverse, à l'opposé de ce que nous pouvions faire nous-mêmes au pouvoir.
Yannick Halimi, vous pensez effectivement qu'il y a eu des débauchages des tentatives de débauchage qui n'ont pas abouti?
Moi, je pense qu'il faut remettre les choses à leur juste valeur et puis écouter ceux qui auraient été tentés d'être débauchés. Je veux parler de deux sur les quatre noms qui ont circulé, c'est-à-dire Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, socialiste, et également Bruno Julliard, qui était un proche de Madame Hidalgo à la mairie de Paris. Eux-mêmes, les deux, ces deux-là, ont dit qu'ils n'avaient jamais été sollicités. Donc voilà, c'est une chose. Il y a une personne qui est Nicolas Klein, qui était un proche donc de Manuel Valls, qui a dit qu'effectivement il avait été approché, qu'il ne voulait pas. Mais l'autre problème, moi je ne suis pas sûre que le gouvernement, dans le remaniement, ils veulent donner une tonalité plus à gauche, plus sociale, c'est sûr et certain. De toute façon, Emmanuel Macron avait dit lui-même au congrès de Versailles que son année 2 serait plus protectrice qu'émancipatrice. Donc voilà. Mais je ne pense pas que Emmanuel Macron ou Édouard Philippe aillent chercher dans un vivier socialiste. Le vivier socialiste, c'est quoi? Si c'est des grosses pointures socialistes, elles étaient toutes quinquennat précédent. Ouais. Donc il ne va pas reprendre des pointures élevées qui ont fait leur preuve ou n'ont pas fait leur preuve il y a à peine 2 ou 3 ans. Ouais. Je pense, en revanche, vu les noms qui circulent et vu certains éléments factuels qu'on pourra développer peut-être tout à l'heure, qui cherchent à attirer plutôt des centristes.
Oui.
On parle beaucoup, par exemple, de...
Marc Fesneau,
le président du...
Parti de la majorité.
Voilà, qui fait partie de la majorité, donc il n'y a pas de problème conceptuel, mais qui représente une majorité donc élargie et qui peut lui-même élargir la base électorale d'Emmanuel Macron à un centre-droit.
C'est ça la difficulté, donc, selon vous. Hein. Oui, oui.
Donc moi, je pense que c'est plutôt ce vivier-là, où il y a des jeunes, entre guillemets, des quadras qui n'ont pas, comment dire, fait passer leur chance dans un quinquennat précédent, qui pourraient représenter des éléments assez forts dans ce nouveau gouvernement.
Sylvie Brunel, l'objectif, en quelque sorte, c'est de viser un petit peu les européennes, de faire pencher le balancier toujours vers ce centre-droit, vers cette France libérale.
D'une part, ce sont des arbitrages politiques qui sont délicats à mener. Moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait tant de gens que ça qui aient été approchés et qui aient refusé. Je pense que le président réfléchit. Que c'est un poste extrêmement sensible parce que l'intérieur, dans la France d'aujourd'hui, où les questions de sécurité, les questions de police sont vraiment au cœur des enjeux de société, fait qu'on ne peut pas mettre une personnalité qui soit ni trop forte et qui va du coup risquer d'entrer en opposition avec Macron qui attend de ses ministres une loyauté totale, et on peut pas se permettre en plus une nouvelle démission, et on peut pas non plus avoir une personnalité trop effacée parce que il va falloir monter au créneau sur un certain nombre de sujets.
Vous avec dire, de la grogne. Pédagogie,
oui, puis on a de la grogne aujourd'hui au sein de la police. Donc voilà, c'est délicat, c'est un poste délicat, un poste sensible.
Thomas Clay, il faut des ministres en mesure de servir, si je puis dire, et en même temps d'expliquer.
Oui, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui manque un peu dans ce gouvernement. Il y a quand même un certain nombre de réformes qui ont été importantes, qui ont été faites et qui sont passées complètement au travers du prisme médiatique. Et je suis d'accord pour cette fois-ci avec ce qui vient d'être dit.
Je suis content.
Voilà,
avec votre
ça finit par arriver
avec
ma collègue de Paris 4.
Oui.
La Sorbonne est multiple. Hein. Il y a plein de Sorbonnes.
Des bonnes, des moins bonnes.
Voilà, il y a celle qui est le numéro 1, la mienne. Et la vôtre qui est le numéro 4.
Bon, alors, c'est une question de Shanghai,
question disciplinaire.
La France est en guerre civile, hein,
peu importe. Non, simplement, je suis d'accord, c'est vrai qu'il faut se méfier de tous ceux qui disent qu'ils ont été sollicités, parce que c'est facile de dire qu'on a été sollicité, que la fiche circule à la haute autorité, par la transparence de la vie publique, etc. Le fait est qu'il y a quand même des gens qui ont été sollicités, notamment au moment du départ de Nicolas Hulot, je pense à Daniel Cohn-Bendit, je pense à Pascal Canfin, et ceux-là, ils ont dit non, ça on le sait.
Oui.
C'est public et ça n'a pas été démenti. Donc il y a quand même un problème de recrutement auprès d'un certain nombre de figures, parce
oui,
que
Cohn-Bendit, c'est
une figure. Voilà.
Quand même.
Et quant à l'intérieur, on va voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, on est en train de nous dire que, pour rejoindre ce que vous disiez, finalement, on va aller chercher dans le quinquennat précédent, mais qui est aussi dans le quinquennat d'aujourd'hui, c'est-à-dire Jean-Yves Le Drian. Voilà.
Bah, c'est le seul, lui, qui pourrait faire l'affaire, mais surtout pas aller chercher dans le quinquennat précédent. Mais je pense que c'est ce que ne veut pas faire Emmanuel Macron.
Allez,
non, mais Jean-Yves Le Drian s'est rallié à la Macronie assez vite.
Nous allons parler justement du palmarès des ministres, hein, selon notre sondage, aux yeux des Français. Ce sera dans un instant. Il est 20h20 sur France Info pour l'heure. Le rappel de l'info, Romain Desec.
Les fortes pluies hier dans le Var ont coûté la vie à deux personnes prisonnières de leur véhicule. Surprise par la crue d'une rivière qui les a emmenées en mer. Édouard Philippe fait part de sa vive émotion. En tout, une vingtaine de personnes ont dû être mises à l'abri au cours de la soirée. L'affaire Sophie Le Tan avec un élément troublant, des bâches retrouvées dans la voiture de Jean-Marc Reiser, principal suspect. Il est mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Ces bâches sont en cours d'analyse. Jean-Marc Reiser reconnaît avoir accueilli Sophie Le Tan chez lui près de Strasbourg. Elle était venue par sa propre volonté, selon lui. Un juge new-yorkais annule l'un des 6 chefs d'accusation qui pèsent sur Harvey Weinstein. Une petite victoire pour l'ancien producteur. Le témoignage d'une de ses accusatrices qu'il accusait de fellation forcée est contredit par un document versé au dossier. C'est un feuilleton qui durait depuis 3 ans. La justice oblige le maire de Dolus-d'Oléron à signer le permis de construire d'un McDonald's. Il refusait de le faire, évoquant un risque d'accident lié au changement de circulation. Derrière cet argument, il y avait également un combat contre la malbouffe. Le maire ne se pourvoit pas en cassation. Ils effectuent en ce moment le plus long vol commercial du monde, 150 passagers. Passager d'un A350 relie Singapour à New York. Temps estimé du vol, 19 heures. L'avion construit à Toulouse consomme 25% de carburant en moins qu'un A340.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
L'attente est longue, surtout pour les membres du gouvernement. C'est un petit peu l'angoisse du ministre au moment du pénalty. Bruno Le Maire, rencontré à Paris aujourd'hui, fait savoir qu'il a bien l'intention de rester.
Quand on est engagé dans un travail de cette importance, de transformation économique du pays et dans le même temps de transformation de la zone euro pour en faire un continent solide, il faut poursuivre son travail, il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué, au milieu du chemin.
Alors il y a ce palmarès hein, que dessine le sondage Odoxa Dentsu Consulting, palmarès des ministres que les Français souhaitent voir rester ou quitter le gouvernement. Le Drian, Blanquer, Le Maire donc sont soutenus. Les Français, en revanche, voudraient dire au revoir à six ministres. Nicole Belloubet, la justice, Gérald Darmanin, c'est surprenant, l'action, les comptes publics, Françoise Nyssen, la culture, Jacques Mézard, la cohésion des territoires, Muriel Pénicaud, le travail, Stéphane Travert, l'agriculture. Ce sont donc des noms de ministres que les Français ne veulent plus peut-être voir rester au gouvernement. Sylvain Courage, est-ce que tout cela a un sens au fond? Après tout, chacun a son avis sur telle ou telle personne. Et puis aussi un petit problème de notoriété à la base.
Oui, alors les ministres qui sont, disons, moins favorisés par l'opinion sont ceux qui ont une mauvaise image pour des raisons qui sont diverses. Travers, c'est parce que c'était le méchant face au gentil Hulot. C'était l'homme des lobbies. En tout, je ne sais pas si c'est exact, mais enfin, c'est l'image qui lui colle à la peau. Dans le cas de Darmanin, c'est peut-être parce que c'est un ancien proche de Sarkozy et que, en général, quand on fait ce genre de changement politique, on est mal vu par une partie de l'opinion. Voilà, chacun a une raison d'être dans ce purgatoire.
Nicole Belloubet,
Nicole Belloubet, c'est un mystère. Peut-être que.
Qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher?
Elle fait un défaut de notoriété.
Aux yeux des Français.
Sa loi est discutée cette semaine au Parlement.
Qui s'en soucie à part les corps professionnels concernés?
Non, pas du tout. C'est sur la justice. La loi est en cours de discussion. On ne peut pas lui reprocher.
C'est la perception.
Mais la perception n'a pas commencé.
Alors, Jeannick Halimi, est-ce que.
De la ministre, elle est là depuis un an et demi.
Est-ce que franchement, ces ministres ont démérité, après tout, quinquennat après quinquennat, qui connaît réellement l'action des ministres concernés?
D'abord, écoutez, alors je ne sais pas si c'est l'offre qui crée la demande, mais le fait que les Français aient des réponses aussi tranchées et semblent s'intéresser au regard de ce sondage à ce moment politique, contrairement à ce que dit, je crois, Emmanuel Macron et peut-être d'autres au gouvernement, les Français s'intéressent à ce qui se passe. Alors, après, qui juge que dans tout ce que nous racontons, ce qui se passe, qui est dit, il y a une partie écume des vagues et une partie beaucoup plus importante et essentiel, ça, bien sûr, mais je trouve que un an et demi après ce qui s'est passé l'an dernier, je peux parler de la présidentielle, des législatives, de la campagne, etc., les Français s'intéressent toujours énormément à la chose politique. C'est un peuple politique, ce ne sont pas les seuls dans le monde, mais c'est un peuple politique. On parle beaucoup de l'abstentionnisme qui, en soi, est également une manifestation politique, mais les Français s'intéressent à la chose politique. Qu'ils aient des avis, alors fondés ou pas, mais en tout cas, qu'ils aient des avis sur tel ou tel ministre, d'ailleurs aussi peu charismatique soit-il, je trouve ça intéressant, je trouve ça plutôt gratifiant et je trouve ça plutôt optimisant, si je puis dire, sur la maturité des Français dans le domaine politique.
Sylvie Brunel, vous protestez, vous contestez ce principe selon lequel on pourrait demander aux personnes qu'est-ce qu'elles pensent de telle ou telle personnalité ministérielle?
De toute façon, on est aujourd'hui dans une société où tout le monde note tout le monde. C'est-à-dire que vous allez passer une nuit dans un hôtel, dans un restaurant, et vous donnez des notes. Alors c'est quand même surprenant parce que pour noter, il faut avoir un certain niveau de compétence et de capacité d'apprécier dans le domaine qui est traité par le ministre l'action qu'il a menée. Souvent, les gens se fondent sur des on-dit. Par ailleurs, être ministre aujourd'hui, ça devient un sacerdoce parce que quand vous êtes ministre, vous devez étaler toute votre vie privée, votre patrimoine, vos éventuels conflits d'intérêts. Donc, la profession commence à devenir répulsive. Faut quand même le dire aussi que beaucoup de gens aujourd'hui se disent « Oh là là, pourvu que ça tombe pas sur moi ».
Vous dites qu'elle n'a plus le même lustre qu'autrefois.
Ça explique certainement une partie des refus de voir sa vie, je suis parfaitement d'accord, étalée...
À la vindicte, à la jalousie, au règlement de compte.
Quand Alain Juppé a refusé de se présenter en substitution à la primaire, enfin après la primaire, il a dit « Je ne veux pas voir ma vie privée démolie par les médias ». C'est des éléments qu'il faut entendre. Et c'est vrai que...
Il faut dire qu'une partie de sa carrière professionnelle a été démolie, et par la justice et par les médias.
Oui, mais là, on parle de vie privée. Ce qui lui est arrivé en 95 avec les affaires judiciaires de la mairie de Paris, c'était pas la vie privée.
Non, mais bon,
il a été condamné À juste titre, d'ailleurs, on peut le dire maintenant, puisque la justice est passée, donc la justice, elle détient forcément la vérité. Là, il parlait d'autre chose. Il parlait effectivement de cette immixtion dans la vie privée, où tout le monde n'en a pas nécessairement envie.
Oui. Dont tout le monde n'a pas nécessairement envie. D'accord. Mais moi, je pense que la transparence, en plus, elle est quand même limitée. Le patrimoine, les conflits d'intérêts, et puis le casier judiciaire, je pense que c'est le minimum qu'on puisse demander.
Mais on le fait pas pour les journalistes.
À nos gouvernants et à ceux qui portent une action publique.
Non, mais que ce soit légitime, sans doute. Qu'un candidat en ait envie, c'est une autre question.
On se retrouve dans quelques instants, quelques minutes, pour la deuxième partie des Informés de France Info. Nous irons voir ce qui se passe à droite et nous évoquerons le sommet de la francophonie. À tout de suite.
En tant qu'équipementier auto implanté en Europe de l'Ouest, il nous fallait quelqu'un pour garantir notre niveau d'exigence. C'est l'ingénieur qualité que vous voyez là. C'est une VIE. N'est-ce pas, Cécile ?
Exact. Grâce au VIE, j'ai pu apporter mon savoir-faire là où on en avait besoin. Attention, ce montage doit être très serré. Pass auf, die Montage muss ganz fest sein.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Business France accompagne votre développement à l'étranger, du recrutement à la gestion RH. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Tu m'as l'air bien pressée, ma chérie. T'as un rendez-vous ?
J'ai pas un rendez-vous, j'ai le rendez-vous.
C'est pour ça que tu t'es mis sur ton 31.
Je suis pas sur mon 31, je suis sur mon 30.
Ton 30 ?
Oui, sur mon 30. Pour fêter les 30 ans de Monsieur Store et profiter des 30% sur la sélection du produit anniversaire.
Donc, on va pouvoir changer nos volets, nos portes et nos fenêtres ?
Et c'est pas tout. En ce moment, des stores et des pergolas sont à gagner en participant au jeu concours Monsieur Store.
Monsieur Store ! 1000 façons d'aimer sa maison.
Vous avez un projet ? Appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Les pluies arrivées par l'ouest poursuivent leur chemin vers l'est en passant par le massif central et le bassin parisien ce soir. Demain, ce sera plus calme, ensoleillé. Alors, on aura quand même beaucoup de grisailles du nord-ouest au nord de la Seine, mais juste le matin. Un peu de pluie sous un ciel gris sur l'ouest de la Bretagne toute la journée avec du vent jusqu'à 90-100 km à l'heure. Sur le Languedoc-Roussillon, là aussi du gris, quelques pluies sur les Cévennes, peut-être une averse en Corse, mais ailleurs, il fera très beau, très doux aussi. Pas moins de 11 à 19 degrés le matin du nord au sud, 20 à 28 degrés l'après-midi avec 22 degrés à Cherbourg, La Rochelle, 25 à Paris et à Toulon, 26 degrés à Strasbourg, à Montauban, 27 pour Clermont-Ferrand et on ira jusqu'à 28 degrés du côté de Mont-de-Marsan.
Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir Marc Bottevin.
Bonsoir. L'annonce immobilière passée sur Internet par Jean-Marc Reiser pose encore plus questions ce soir. France Info vous révèle que la photo sur cette annonce était celle de l'appartement de sa mère. Sophie Le Tan partait visiter un logement dans la région de Strasbourg le jour où elle a disparu. Dans cette affaire, Jean-Marc Reiser est mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Des bâches ont été retrouvées dans sa voiture. Elles sont en cours d'analyse. Tout mon soutien aux familles et aux proches, les mots d'Edouard Philippe après la mort d'un homme et d'une femme dans le Var. La voiture dans laquelle il se trouvait a été emportée en mer par la crue d'une rivière. Après les intempéries d'hier, le nettoyage a commencé. Ce soir, plus aucun département n'est concerné par une vigilance orange pluie-inondation. Dans le Var, le dispositif mis en place par les pompiers est allégé. Des rues jonchées de débris, des centaines de milliers de foyers privés de courant. Avant d'être rétrogradé en tempête tropicale, l'ouragan Michael a fait des dégâts dans le sud-est des États-Unis. Au moins deux personnes sont décédées. Le nord-ouest de la Floride a été particulièrement touché. La ville de Panama City pense à peine ses blessures, Grégory Phillips.
Au lever du jour, ils ont encore l'air éberlués, comme sonnés par la violence de ces vents à 250 km/h. Chris a passé la nuit dans sa voiture sur un parking.
Ma maison a été complètement détruite, donc j'attends pour savoir où est-ce que je vais dormir maintenant. C'était une bombe.
Peggy, elle, vivait avec son mari et leur fils de 12 ans dans un mobile home. La caravane s'est envolée.
C'était vraiment effrayant. Les bruits étaient incroyables. Je n'arrêtais pas de prier. La prochaine fois, je partirai, c'est sûr.
Plus on s'approche du front de mer et plus les dégâts sont impressionnants. À gauche de la route, un train de marchandises complètement renversé. Partout, des poteaux électriques à terre, des voitures explosées et projetées à plusieurs mètres. Et puis, il y a cette tour d'habitation dont certains étages ont été détruits.
Et là, quand on arrive au 8e étage, on découvre des appartements totalement dévastés. En fait, les murs se sont envolés.
Au loin, on aperçoit un hélicoptère de la FIMA, les services d'urgence. Mais pour l'instant, la population de Panama City semble livrée à elle-même. Après le choc, vient l'heure du nettoyage. On sort des pelles, des balais. Downtown, au milieu de la rue principale, un homme seul ramasse des bouts de toit envolés et les écarte de la route afin que les voitures puissent passer. Panama City en Floride, Grégory Phillips, France Info.
Et puis pas une place de libre ce soir au stade du Roudourou à Guingamp. L'enceinte accueille le match amical France-Islande. Coup d'envoi dans une demi-heure. 20h33 sur France Info, les informés. Jean-François Aquili et ses invités.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Aujourd'hui en France, Sylvie Brunel, géographe, écrivain, professeur à la Sorbonne. Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. Et Thomas Clé, lui aussi, professeur de droit à la Sorbonne. Non, c'est non. Laurent Wauquiez refuse sans détour la liste d'union proposée par Nicolas Dupont-Aignan pour les élections européennes. Révélation de nos confrères du Figaro ce matin. Le président de Debout la France avait pourtant pris sa belle plume pour écrire à son collègue patron des Républicains. Il l'avait annoncé il y a un peu plus de 3 semaines sur France Info.
Moi, je lui enverrai un programme, comme je l'enverrai aussi à M. Wauquiez, car l'enjeu, vous le savez bien, pour l'avenir, c'est de reconstituer un pôle d'alternance sérieux, solide, avec une partie des Républicains, avec Debout la France, avec des partis comme le CNI, le Parti chrétien-démocrate, avec ceux et le Rassemblement national qui le souhaitera, c'est-à-dire un vrai pôle d'alternance
l'union
pour
des droites.
Éviter
l'union des,
l'union des patriotes et des Républicains qui pensent qu'il y a un autre destin pour le pays.
Alors, Jeannick Halimi, la réponse a été cinglante. Hein. Lors du second tour de l'élection présidentielle, vous avez fait le choix d'apporter votre soutien à Marine Le Pen, lui a dit Laurent Wauquiez. Ça paraît impossible, hein, tout ça.
Oui, ça paraît possible. Il y a eu quand même énormément de doutes, hein, tout de même de questions qui se sont posées au regard des idées, notamment développées par Laurent Wauquiez sur l'immigration, sur l'identité, etc. Mais Laurent Wauquiez, il faut lui reconnaître cela tout de même, malgré les suspicions qui ont pu être évoquées ici et là, a toujours dit qu'il ne franchirait pas cette muraille de Chine avec l'appareil du Front National et du Rassemblement National aujourd'hui. Mais il n'a pas caché non plus, lui, comme certains de ses prédécesseurs ou certains de son appareil, qui le visait à attirer ou à rattirer, oui. De l'électorat de Marine Le Pen. Et pour cela, sans aller encore une fois jusqu'à une sorte de complicité que certains jugeraient nauséabonde avec l'appareil du Rassemblement National, sans aller bien évidemment jusqu'à des listes communes aux européennes, il peut justement développer un programme qui pourrait reprendre certaines idées ou certains esprits de, et on le voit dans les dernières mesures qu'il a énoncées pour faire tout simplement des économies budgétaires où il y a quelques éléments phares tournant autour des migrants, des immigrés. Bon, ben voilà, c'est un exemple.
Sylvain Courage, c'est plutôt une bonne nouvelle pour La République En Marche, finalement, cette droite qui n'arrive pas à passer des accords pour les Européens.
Bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour La République En Marche, mais on peut douter un peu de la sincérité du Pont-Aignan, parce qu'en fait, il a bien envie d'y aller tout seul, je pense, à ces élections européennes pour faire un petit score, parce que les sondages le créditent d'un petit score qui lui permettra sans doute lui-même d'être élu au Parlement européen. Donc c'est plutôt un jeu pour essayer de déminer, pour dire je suis pas le diviseur. Donc il prend une initiative pour essayer de fédérer autour de lui. Il sait très bien qu'on va lui répondre non. Et ça va libérer sa candidature. Donc je pense que c'est un petit peu une comédie quand même, cette phase. Oui. Ils vont être effectivement divisés. Et pour La République En Marche, c'est la possibilité d'attirer le centre droit. Et on a vu que Alain Juppé, encore aujourd'hui, dans un titre concurrent d'une autre, pouvait se laisser tenter par un rapprochement avec La République En Marche, même s'il va falloir négocier, ça va être compliqué.
Thomas Clay, ces grandes manœuvres ne sont pas terminées, et puis ça se joue quand même sur des idées pour l'Europe ou contre l'Europe.
Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des idées pour ou contre l'Europe.
Ce ne sont que des écuries à vos yeux.
Enfin, c'est des batailles politiciennes internes qui justement ne sont pas à la hauteur des enjeux européens. Mais vous disiez à l'instant que dans la réponse de Laurent Wauquiez, c'était de dire à Nicolas Dupont-Aignan, vous avez fait le choix de Marine Le Pen au deuxième tour, c'était pas mon choix. Oui, mais enfin, le choix de Laurent Wauquiez, il n'était pas si clair au deuxième tour. C'est précisément pour ça qu'une grande partie de la droite de l'époque l'a quitté pour rejoindre soit La République En Marche, soit un groupe centriste, soit voilà. Donc, si la proposition est faite à Laurent Wauquiez, bien sûr, il y a de la tactique politique. Mmh. Mais c'est aussi parce qu'il y a des proximités idéologiques. Et on le sait aujourd'hui.
À quoi pensez-vous notamment?
Tout le discours sur les migrants de Laurent Wauquiez depuis des semaines, je vous rappelle qu'il nous a quand même dit qu'on était, c'était une lutte de civilisation, qu'on était étrangers dans notre propre pays. Ce sont des phrases qu'il a prononcées lui-même à la rentrée politique du mois de septembre. Tout ça est très proche quand même de Dupont-Aignan, qui lui-même est très proche de Marine Le Pen. C'est la transitivité en politique, c'est pas seulement en mathématiques. Voilà. Tout ça se regroupe dans un univers référentiel commun.
Vous êtes d'accord avec ça, vous, Sylvie Brunel? Il y a une forme de proximité, de porosité en termes d'idées entre ces formations-là?
Pas tout à fait. En fait, à mon avis, le calcul de Laurent Wauquiez, il a suffisamment, effectivement, donné des gages à l'extrême droite et aux idées nauséabondes de l'extrême droite pour aujourd'hui s'en dissocier, pour que les gens qui pourraient tenter par ces idées mais ne sont pas prêts à faire le saut puisse voter pour lui en bonne, comment dire, en se disant que finalement il n'a pas franchi la limite, et ça lui permet surtout de récupérer une partie des gens de droite qui ont voté pour Macron et qui aujourd'hui pourraient revenir dans le giron de la droite, mais sans être, ce soit une droite extrême. Donc, je pense que le calcul de Laurent Wauquiez est très malin. Et puis, surtout, il achoppe Laurent Wauquiez sur une question, qui est la question de l'Europe.
Oui.
Et Dupont-Aignan a dit qu'il n'était pas pour l'Europe. Enfin, il a dit, ça a été un peu ambigu. Et ça, c'est vraiment une ligne rouge.
Oui, parce que Laurent Wauquiez écrit également, il parle du programme de sortie de l'euro, de l'Union européenne, qui serait un désastre pour la France. Encore un dernier mot là-dessus, Yannick Halimi, vous écrivez ce matin dans Le Parisien qu'au fond, sans rentrer trop dans le détail, La République En Marche essaie de d'appuyer là où ça fait mal. Chez Les Républicains, c'est sur Viktor Orban, grosso modo.
Sur Viktor Orban, oui, tout à fait, parce que il y a ce que dit Laurent Wauquiez, mais il y a aussi ce que font notamment La République En Marche, mais aussi le Rassemblement National et l'évolution idéologique logique du Rassemblement National, puisqu'on parle d'Orban. Et encore une fois, Laurent Wauquiez risque d'être contré dans sa tentative, encore une fois, de récupérer au moins l'électorat du Rassemblement National par l'évolution de Marine Le Pen sur la question européenne. Elle ne parle plus de la sortie de l'Europe, elle ne parle même plus de la sortie de la zone euro. Elle se rallie à une sorte d'orbanisation, encore une fois, et donc de gouvernement populiste, voire d'extrême droite, qui veut rester au sein de l'Europe parce que respecter les critères de Maastricht, mais mettre en place des politiques migratoires et identitaires bien précises. Donc là, Laurent Wauquiez, même s'il développe des idées, effectivement, entre guillemets, anti-migrants, enfin extrêmement sévères vis-à-vis des migrations, très ferme, il va se heurter à des positions encore plus fermes vis-à-vis du Rassemblement National et également une évolution du Rassemblement National sur la question européenne. Monsieur Wauquiez risque d'être coincé dans sa stratégie.
Allez, nous allons parler de francophonie dans un instant. Il est 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Romain Desec.
Le remaniement, c'est long à venir et c'est grave pour 53% des Français, selon un sondage Odoxa d'Enso Consulting pour France Info et Le Figaro. L'enquête montre également que c'est Édouard Philippe qui attire la confiance de la majorité des Français, 55%. Ils ne sont que 29% à être rassurés par Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui est en ce moment au sommet de la francophonie en Arménie, à ce sujet, l'Arabie Saoudite annonce qu'elle retire sa candidature en tant que pays observateur. Candidature qui a provoqué un tollé. Le régime saoudien est régulièrement accusé de violer les droits de l'homme et Riyad est soupçonné d'avoir assassiné un journaliste critique envers le pouvoir. Le bilan des inondations au Baléares s'alourdit, 12 morts, un enfant est toujours porté disparu. Les autorités n'excluent pas la découverte de nouvelles victimes dans les prochains jours. En Floride, scène de désolation après le passage dévastateur de l'ouragan Michael. Deux personnes sont décédées, bilan provisoire. Le gouverneur de l'État déconseille aux habitants de sortir à cause notamment également des câbles électriques tombés au sol. L'hôtellerie française, indignée par le montant de l'impôt payé par la société Airbnb en 2017, 160 000 euros pour un chiffre d'affaires net de plus de 7 millions d'euros. Montant révélé par le magazine Challenge, les professionnels du secteur demandent à Gérald Darmanin de rétablir l'équité du système fiscal.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Emmanuel Macron, lui, a pris ses distances géographiques, si je puis dire, avec toute cette agitation politique à Erevan. C'était prévu en Arménie pour le sommet de la francophonie. Le président a rendu un nécessaire et légitime hommage à Charles Aznavour.
Et l'Arménie, pour la France et toute la francophonie, c'était aussi une voix. Une voix qui vient de s'éteindre et qui plonge nos pays dans la tristesse et le deuil. Ce chanteur qui représentait la culture francophone partout dans la planète, nous le savions tous, était arménien.
Voilà l'hommage à Charles Aznavour. Par-delà cet hommage, qui était très attendu, évidemment, on le comprend, à Erevan, Thomas Clay, l'élection de la future présidente de l'Organisation internationale de la francophonie suscite une polémique. Alors je précise pour tous ceux qui nous écoutent, c'est une personnalité du Rwanda, Louise Mushikiwabo, qui est soutenue par Emmanuel Macron, qui devrait prendre la tête de l'organisation. En quoi cela pose problème ?
Ça pose problème. De manière générale, ce gouvernement ne traite pas la francophonie à la hauteur de ce qu'il devrait faire. C'est d'ailleurs surprenant, c'est même un paradoxe, puisqu'on a un président de la République qui aime la langue française, c'est une évidence, qui s'exprime de manière référencée, mais par exemple qui n'a pas de ministre de la francophonie. C'est singulier, on n'a pas de ministre. Il y avait un ministre de la francophonie, d'ailleurs, je ne suis pas sûr.
Non, il y a le ministre du commerce, monsieur.
Non, il n'y a pas de ministre de la francophonie dans le gouvernement
actuel. Non, qui a la francophonie dans son portefeuille, le ministre du commerce extérieur, Jean-Baptiste Lemoine.
Oui, il a voilà. un portefeuille là, mais il n'y a pas de ministre ni de secrétaire d'État à la francophonie. Mais alors,
dédié.
Mais précisément, il y en a toujours eu. Je ne suis pas sûr que, par exemple, les journalistes politiques qui soient là se souviennent de quel était le dernier ministre de la francophonie. Non, justement, pas André Valigny, parce que André Valigny, on s'en souvient, il a été un excellent ministre de la francophonie, Jean-Marie Le Guen. Tout le monde l'a oublié. C'est un poste très important, et on a effectivement là à l'OIF, c'est très important l'OIF. L'OIF, c'est une petite ONU qui véhicule les valeurs, pas seulement la langue, qui véhicule la démocratie.
L'Organisation internationale de la francophonie.
Voilà, il y a 84 pays à l'OIF. On vient d'apprendre effectivement que l'Arabie Saoudite vient d'être rejetée, et il y a deux ans, au sommet d'Antananarivo, l'Arabie Saoudite avait déjà été candidate, et c'est grâce à Justin Trudeau à l'époque, et d'ailleurs André Valigny, puisque François Hollande était aux abonnés absents, que une fois de plus, déjà l'Arabie Saoudite avait été rejetée. Mais pour terminer sur la question que vous nous avez posée,
pourquoi ça pose problème ?
Ça pose problème parce qu'on avait une directrice générale de la francophonie, Michaëlle Jean, une femme absolument remarquable, qui était d'ailleurs la première femme à cette organisation, qui par son histoire, elle avait été gouverneure générale du Canada, c'est une haïtienne d'origine et qui n'a pas démérité, a été débarquée ou ne va pas être renouvelée, et on a choisi une ministre d'un pays qui présente deux inconvénients, le Rwanda. Premièrement, c'est un pays anglophone, ce qui en termes de francophonie pose une difficulté. D'ailleurs, lorsque le président Kagame l'a annoncé sur le perron de l'Élysée, il l'a annoncé en anglais. Et deuxième inconvénient, j'en termine, ce n'est pas un pays démocratique. Je rappelle que Paul Kagame a été réélu en 2017 et qu'il est là jusqu'en 2034, ce qui pour un démocrate pose une difficulté.
Voilà pour cette démonstration du professeur Thomas Clay. Avant de vous faire réagir autour de cette table, je voudrais donner à entendre justement la présidente sortante, Michaëlle Jean.
Je suis arrivée à la francophonie avec cette volonté vraiment d'être à la tête d'une francophonie agissante, toujours plus agissante. Je ne veux pas laisser croire qu'elle ne l'était pas avant, mais toujours plus agissante. Et ça a été vraiment formidable de la positionner sur l'échiquier multilatéral.
Voilà donc la présidente sortante qui s'exprimait récemment sur nos antennes, Michaëlle Jean. Sylvie Brunel, effectivement, le Rwanda pose problème. C'est un pays qui est soupçonné d'être quand même un pays autoritaire. Certains disent, comme Jean-Luc Mélenchon, que c'est une dictature. Il parle de régime dictatorial. C'est une polémique pour vous ?
Alors d'abord, replaçons le contexte rapidement. Michaëlle Jean, elle est soutenue par le Canada, c'est-à-dire c'était la gouverneure générale du Canada. Le Canada, c'est le pays francophone rival de la France dans la communauté internationale. La France voulait un candidat africain. Elle a pris, avant de jeter son choix sur cette Rwandaise, elle a pris d'abord conseil auprès du Maroc, auprès de l'Union africaine, auprès du Tchad. Or, il faut savoir que le Rwanda a en Afrique un véritable rayonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kagame fait énormément de sommets, il a lancé un certain nombre d'opérations. Donc, pour Macron, il y avait deux calculs. D'abord, le calcul d'avoir un candidat qui était soutenu par l'Afrique. Ensuite, il ne faut pas oublier que la France a vis-à-vis du Rwanda une dette dont on ne sait pas exactement quelle est son ampleur, mais il y a beaucoup de questions qui restent autour du génocide. Et c'est aussi une façon de réconcilier la France et le Rwanda. Et puis cette femme, Louise Mushikiwabo, c'est du Kinyarwanda, c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile, eh bien, elle parle parfaitement français et anglais.
Et le français qui est une des trois langues officielles, Sylvain Courage, du Rwanda également.
C'est une des langues officielles.
Voilà, et il y a quand même 900 millions de locuteurs.
Donc pour vous, c'est un choix qui est justifié, selon vous?
Non, ce n'est pas un choix qui est justifié. Je comprends qu'on soit choqué. Michaël Jean n'a pas démérité, c'est une haïtienne. En plus, c'est un peu pas très sympa de ne pas lui permettre de faire un deuxième mandat. Mais le calcul politique peut être un peu tordu, mais le calcul politique de Macron, il est très clair. Or, vous le savez, il fait des jeux de billard à 18 bandes.
Sylvain Courage, le Reporter sans frontières dénonce la censure, les arrestations, les assassinats de journalistes qui osent critiquer le pouvoir à Kigali. Pour vous, ça pose problème?
Oui, il y a une dimension, c'est problématique sur le plan des droits de l'homme. J'ajouterais dans les calculs du président Macron une dernière dimension, c'est qui veut sortir la francophonie de l'espace postcolonial de la France. Et donc, essayer d'attirer et de développer le français dans un pays où l'anglais aussi est une langue importante, c'est une manière d'ouvrir les portes et les fenêtres. Et il est conseillé en cela par Leïla Slimani, la romancière, qui est sa conseillère spéciale en matière de francophonie, et qui veut détacher en quelque sorte le français de l'histoire coloniale. Et donc, c'est, paradoxalement, cette ouverture vers le Rwanda, c'est une manière aussi d'asseoir ça.
La francophonie, Jeannick Halimi, une organisation éminemment politique, c'est un peu comme à l'ONU finalement.
Oui, c'est ce que disait Thomas Clay tout à l'heure, c'est une petite ONU avec 84 ONU membres ou observateurs. Quand même plusieurs choses, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, je n'en rajouterai pas, mais quand même plusieurs choses. Le Rwanda, certes, est un pays autoritaire, ça, il n'y a aucun dictatorial, enfin, tout ce que vous voudrez, monsieur Kagame s'est fait réélire, la possibilité de se faire réélire, en tout cas rester président jusqu'en 1937, enfin bref, mais ce n'était pas le seul. Il y a énormément de pays au sein de l'organisation de la francophonie qui ne répondent pas du tout à nos critères, à nous, démocratiques et des droits de l'homme.
Pour vous,
et
c'est faut d'ailleurs. Aller au-delà
alors,
de ces
il y a par exemple. Oui. Non, je ne dis pas qu'il faut aller au-delà, mais ce n'est pas que le Rwanda, il ne faut pas stigmatiser l'éventuelle présidente. Donc déjà, c'est ce cas. D'ailleurs, Emmanuel Macron voudrait corriger les règles d'adhésion pour qu'elles soient plus contraignantes. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que l'Arabie saoudite, en anticipant, a retiré sa candidature, parce que, bien évidemment, s'il y a une autre dictature au monde, c'est aussi, pas que, l'Arabie saoudite. Et je veux terminer là-dessus, l'Organisation internationale de la francophonie est un élément d'influence. Le Qatar, par définition, il n'y a pas que la France et Emmanuel Macron qui instrumentalisent cette organisation internationale. Par exemple, le Qatar y est, alors qu'on ne parle pratiquement pas français au Qatar, mais ça va au-delà de la francophonie, encore une fois, cette organisation, veut s'installer. Soutient par exemple la candidature de madame parce que il veut établir et élargir son influence dans l'Afrique occidentale où les musulmans sont évidemment majoritaires. Donc voilà, ce n'est pas seulement le français, la francophonie, c'est aussi une petite planète d'influence et de géostratégie à tous les niveaux.
Et cette élection aura lieu donc de Louise Mushikiwabo, aura lieu demain 20h50 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Romain Desec.
Édouard Philippe fait part de sa vive émotion après la mort de deux personnes dans le Var hier, leur véhicule emporté en mer par une crue à Sainte-Maxime. L'alerte orange aux pluies et inondations a été levée cet après-midi. L'affaire Sophie Le Tan, des bâches ont été retrouvées dans la voiture de Jean-Marc Reiser, principal suspect. Elles sont en cours d'analyse. Jean-Marc Reiser reconnaît avoir accueilli Sophie Le Tan chez lui, près de Strasbourg. Elle était venue par sa propre volonté, selon lui. Les députés ont donné leur accord pour la privatisation de la Française des Jeux et les Français pourront acheter des actions s'ils le souhaitent, annonce de Martin Vial, le responsable des participations de l'État. La Française des Jeux devrait entrer en bourse courant 2019 en fonction du marché. Les deux astronautes qui devaient partir en direction de la Station spatiale internationale sont sains et saufs. Leur fusée Soyouz a connu un problème au niveau d'un moteur peu après le décollage. Leur capsule les a ramenés sur Terre. Les deux hommes ont tout de même subi une pression de 6G en redescendant. Les supporters des Girondins de Bordeaux, peut-être soulagés, Alain Juppé va proposer le vote de Bordeaux Métropole demain, ce qui permettra la vente du club. Il s'est dit rassuré par les arguments du fonds d'investissement américain qui souhaite reprendre le club. Le football sur le terrain, l'équipe de France affronte ce soir l'Islande en amical à Guingamp. Mbappé est sur le banc, le coup d'envoi c'est à 21h.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous refermons ces informés sur cette révélation de nos confrères Lacroix qui va faire débat. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU s'apprête à remettre en cause la loi française du 11 octobre 2010, on en a beaucoup parlé, sur la dissimulation du visage dans l'espace public. Elle porterait atteinte à la liberté religieuse et créerait une discrimination à l'encontre des femmes en clair. Eh bien, selon cette instance, la France ne devrait plus interdire le port de la burqa. Voilà, c'est dit. Il s'agit évidemment de constatations non contraignantes. Thomas Clé, je me tourne vers vous. Vous êtes le juriste de cette émission. Est-ce que la France, selon vous, devrait revenir sur ces lois, sur le port du voile ?
De quoi je mêle ? Cet organe de l'ONU n'a aucune compétence pour déclarer ce genre de choses. L'ONU ferait mieux de s'intéresser à ces vrais sujets, comme la Syrie, par exemple. On serait plus intéressé que l'ONU soit présent en Syrie plutôt que sur une loi française sur le port de la burqa. Et il y a un organe qui est compétent pour s'exprimer sur ces choses-là au niveau international. C'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà prononcée deux fois pour dire que la loi française ne portait pas atteinte aux droits de l'homme. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe avec cet organe de l'ONU et vraiment qui s'occupe de ce pourquoi l'ONU est fait. Voilà.
Sylvie Brunel, sur cet avis de cette organisation de l'ONU, de ce Comité des droits de l'homme, que diriez-vous ce soir ?
Beaucoup de choses, mais je vais les faire brèves. D'abord, la loi n'avait pas été prise sur un fondement de religieux ou de laïcité, elle avait été prise sur un fondement de sécurité, c'est-à-dire masquer son visage dans l'espace public est considéré comme quelque chose qui n'est plus autorisé aujourd'hui, que ce soit une femme, un homme ou qui que ce soit. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme avait validé cette législation prise, il faut le rappeler, sous le gouvernement de François Fillon. Par ailleurs, il faut se souvenir aussi que Redouane Faïd, qui vient d'être arrêté, s'était dissimulé sous une burqa. Donc on voit bien la légitimité de cette loi. Pourquoi la Commission des droits de l'homme de l'ONU se mêle de cela ? Bon, elle rend des avis sur à peu près tout, tout le monde s'en fout. Hein, mais bon, c'est quand même pas très sympa de le faire vis-à-vis de la France. C'est parce qu'il y avait eu deux requêtes de femmes qui avaient été verbalisées pour avoir porté la burqa dans l'espace public, en application de cette loi. Donc, l'argument de la sécurité, je crois qu'il n'y a pas une seule personne aujourd'hui, moi, qui fait des cours pourtant à Paris-Sorbonne, à Abu Dhabi, bon, où les femmes ne sont pas voilées, mais je n'accepterai pas que
les élèves ne sont pas voilées.
Mais bien sûr. Alors, ils peuvent porter un voile sur leurs cheveux, mais ils ne portent pas de burqa. Et je n'accepterai pas de faire cours à un élève dont je ne verrai pas le visage. Quel qu'il soit, un homme, une femme, ce n'est pas possible. Voilà, c'est une question aussi, tout simplement, de non pas de liberté, mais
là,
de sécurité.
Sylvain Courage, vous pensez que cette question fait encore débat aujourd'hui en France, selon vous ?
En France, je pense qu'elle ne fait pas débat. En revanche, la conception française, apparemment, est mal comprise par...
Par-delà les frontières.
Voilà, oui. Au plan international, elle se heurte alors aux pays qui veulent promouvoir le voile et la burqa, ça paraît évident, mais elle se heurte aussi à la conception anglo-saxonne de la liberté, qui n'est pas exactement la même que la nôtre. Et donc, c'est sur le fondement de cette tradition-là, je pense, que cette organisation qui dépend de l'ONU a pris sa décision. Mais elle montre une certaine incompréhension quand même vis-à-vis, disons, de la conception française. Ça ne veut pas dire que la conception française est mauvaise.
Jean-Nic Alibi, justement, est-ce que, selon vous, la France peut être montrée du doigt ?
Non. stigmatisés. Oui. Écoutez, en tout cas, on n'en prend pas le chemin. D'abord, juste pour préciser que le comité des droits de l'homme, ce n'est pas une instance politique de l'ONU, ce sont des juristes internationaux.
Oui. Ils sont 18.
Voilà, oui. De tous les pays, qui avaient déjà épinglé les décisions de la Cour de cassation. Vous l'avez dit,
pardonnez-moi,
sur la crèche de Babylone. Oui, ce qui est très important, c'est qu'elle stigmatise une loi. Une loi, d'ailleurs, à l'époque, en 2010, non votée par les socialistes. Il faut peut-être le rappeler, les socialistes s'étaient abstenus. En revanche, bien évidemment, on l'a vu, François Hollande ne l'a pas remise en cause lorsqu'il a été président de la République. Mais juste pour répondre à votre question, je suis d'accord avec vous, il y a deux conceptions philosophiques. Nous, c'est la laïcité républicaine et puis le droit anglo-saxon sur la liberté individuelle et la liberté d'expression. Mais d'autres pays en Europe, au-delà de la Cour européenne des droits de l'homme qui a validé, si je puis dire, notre loi, d'autres pays en Europe commencent également, ont adopté des lois identiques, l'Autriche et la Belgique. Et comme il faut le reconnaître que la burqa, c'est un signe distinctif religieux de l'islam, au regard de ce qui se passe en matière de terrorisme et aussi de montée de gouvernements de droite assez autoritaires, il y a plutôt cette volonté d'aller dans les pas de la France. Et juste en termes politique intérieure, quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui est un ponte des LR, demande à ce que cette infraction, cette contravention devienne un délit en France.
Jeannick Halimi, c'est le mot de la fin. Qu'y a-t-il à la une du Parisien aujourd'hui en France ?
C'est l'éloquence, le retour de l'éloquence en France et dans l'enseignement français.
Et Sylvain Courage, la une de l'Obs.
Macron chez le psy. Nous avons demandé à des psychanalystes se pencher sur le trouble de notre président.
Et alors ? Merci Jeannick Halimi, merci Sylvie Brunel, merci Sylvain Courage et merci Thomas Clé. Je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info.